Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 24 avril 2024. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc, on a eu des résultats de Tesla hier. Comment ça se passe dans le monde des finances depuis la dernière semaine?
Bien, sur la semaine, c'était quand même une semaine légèrement mieux que la précédente. Le Nasdaq demeure en baisse cette semaine, mais le S&P 500 est en hausse de 0,4%. Au TSX, c'est encore mieux, une hausse de 1,7%. On demeure en territoire négatif pour le mois d'avril, mais il y a quand même une certaine lueur d'espoir. Tu as mentionné Tesla qui a annoncé ses résultats financiers hier. Puis honnêtement, les résultats financiers, là, juste sur la nouvelle, sont pas bons. Ils ont manqué les revenus, ils ont manqué les bénéfices. Cependant, on n'achète pas une entreprise pour ce qui s'est passé dans le passé. On veut acheter pour le futur. Et Tesla a annoncé le lancement du modèle 2, donc une voiture moins chère qui devrait réaugmenter les volumes dans le futur. Sur la nouvelle, le marché a réagi très positivement. Pour l'instant, dans en pre-market, là, sur les marchés avant l'ouverture, le titre est en forte hausse là, de 10 à 12 %. On a cette semaine là, Meta aujourd'hui, anciennement Facebook, pour ceux qui se demandent. Microsoft, Google vont annoncer les résultats financiers. On a le CN qui a annoncé des résultats, somme toute, conformes aux attentes. Donc, vraiment une semaine quand même assez charnière pour ce qui va se passer cet été. Là. Donc, si les résultats sont bons ou si les nouvelles sont encourageantes, ça pourrait lancer le marché pour l'été. Inversement, si les résultats devaient être plus souvent qu'autrement décevants, ça pourrait être une été un petit peu morose. Du côté des taux d'intérêt, ça s'est un peu stabilisé. Là, les 10 ans aux États-Unis ont rebaissé très, très légèrement à un point de base à 4,63. Au Canada, ça a monté une toute petite affaire à 3,76 en hausse de 3 points de base. Du côté de la devise, ben, notre dollar canadien s'est raffermi un peu. La semaine passée, on était à 72,4. On est à 73,1. C'est-tu nos snowbirds qui reviennent? Puis là, soudainement, le dollar change alors qu'il aurait eu besoin d'un dollar fort il y a quelques semaines. Bon, on ne le saura pas. Le pétrole rebaisse un peu à 83 $. On était dans les 85 il y a quelques semaines. Le pétrole, on en parle beaucoup parce que c'est une composante importante de l'inflation. Le pétrole a monté là, dans les dernières semaines, donc ça pourrait expliquer un petit peu le regain de l'inflation dernièrement, mais si le pétrole devait rebaisser dans les prochaines semaines ou mois, ça donnerait un petit coup de main aux banques centrales pour permettre là, peut-être d'entamer le cycle de baisse de taux. Donc, somme toute, je pense que ça demeure un mois d'avril un petit peu difficile, mais il y a des lueurs d'espoir là, avec des résultats financiers importants qui vont être sortis, qui sont attendus cette semaine.
Bien, merci beaucoup, Martin. Parlant de pétrole, plus d'un millier de personnes, politiciens et personnalités publiques ont marché dimanche dans les rues de Montréal, réclamant un avenir énergétique juste et viable, à la veille du 55e jour de la Terre. L'événement survient après une année confirmée comme étant la plus chaude jamais enregistrée de l'histoire. Cette citation provient d'un article que tu as lu en fin de semaine, donc c'est toi qui m'as attiré mon attention, puis c'était un article dans la presse écrit par Henri Ouellette Vézina. L'article faisait mention aussi du suivant. Dans le passé, les rassemblements entourant le jour de la Terre avaient parfois attiré plusieurs milliers de personnes, ce qui n'a pas été le cas dimanche. Dans notre monde de placement, nous voyons aussi la même chose. Les gens s'intéressent moins aux placements environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Oui, malheureusement.
Oui, cela nous désole, mais il y a un argument qui dit que les gens auraient peut-être perdu espoir, en partie, puis on va en parler, où les conflits internationaux et l'inflation préoccupent plus. Je pense que c'est plutôt ça. Cela étant dit, l'investissement ESG existe encore et les compagnies ont encore de la pression pour faire mieux pour l'environnement, les compagnies, les gouvernements, la société et d'avoir une meilleure gouvernance. Donc, l'environnement et pour la société et aussi pour avoir une meilleure gouvernance. Donc, ce qu'on appelle ESG.
Ouais.
Rapidement, est-ce que tu peux nous expliquer les différentes façons d'investir en ESG?
Oui, pour résumer ça à son essence la plus simple, on peut faire de l'exclusion, donc ne pas acheter des entreprises dans certains secteurs. On peut à y aller avec une approche plus activiste, donc de dire, ben moi, je vais acheter n'importe quelle entreprise, mais en tant qu'actionnaire, je vais me servir de mon droit de vote pour influencer la direction de l'entreprise pour améliorer ses pratiques. Une approche là, best in class, là, donc de dire, ben je vais investir dans tous les secteurs, mais je vais essayer de choisir, mettons, prenons par exemple le pétrole, ben la moins pire de la gang. Donc de dire, ben je vais essayer de choisir l'entreprise qui a les meilleures pratiques dans son secteur. Donc on n'exclut pas nécessairement des secteurs économiques, mais on va vraiment y dire, tu sais, c'est comme acheter à reculons, les yeux fermés puis le nez pincé, une entreprise en disant, ben c'est la moins pire de la gang, je vais la prendre. Donc, typiquement, la majorité des investisseurs, leur réflexe, c'est de dire, ben, si j'investis de façon ESG, je pratique de l'exclusion. Ça, c'est le réflexe naturel, je pense, de nos clients. Et du côté investisseur plus institutionnel, c'est plus l'approche activiste et best in class là, qui est adoptée bien souvent. L'exclusion est peut-être un petit peu plus de façon thématique. Il y a certains fonds qui vont vraiment dire « OK, nous, on investit juste dans tel secteur ». Donc, ce n'est pas qu'ils excluent, ils vont juste investir dans 2, 3, 4 secteurs.
Et on a parlé tout à l'heure qu'il y avait des défis en investissement ESG. Est-ce que tu peux nous parler des défis actuels de l'investissement ESG?
Bien, je pense qu'un des défis, c'est la performance à court terme qui a été passablement difficile. Parce que quand on pense ESG, le E est très important dans le ESG. La principale lettre, c'est le E pour environnement. C'est ça qui attire le plus l'attention. On pense aux producteurs d'énergie renouvelable, entre autres, et ça a été un secteur qui a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Donc, c'est pas tant que les entreprises ne vont pas bien, mais les hausses de taux d'intérêt fait que ces entreprises-là, ça met une pression sur la rentabilité à court terme. Et puis, c'est un secteur économique là, qui a pas très bien fait là, dans le marché.
Malgré que le S puis le G sont hyper importants.
Exact. Donc, tu sais, on a une compagnie minière canadienne qui avait une énorme mine de cuivre au Panama, puis la population là-bas s'est rebellée contre les pratiques de l'entreprise. Puis là, j'ai pas tous les détails, mais finalement, la mine est fermée, puis le titre de l'entreprise en question a baissé de 75 %. Donc, le S est très important aussi si on fait pas attention à la société ou à l'environnement, à la population autour de la compagnie, ça peut avoir des répercussions qui sont très, très graves. Il y a aussi aux États-Unis, malheureusement, là, c'est devenu très politisé. Donc, le sentiment ESG, c'est associé avec les démocrates, puis les républicains se sont campés du côté anti-woke, si on veut. Et dans certains États rouges, là, des États plus républicains, il y a même des lois qui ont été votées pour interdire aux gestionnaires de pension de considérer les facteurs ESG dans l'investissement. Je pense que c'est une vision très court terme, c'est très politisé. Ceci dit, tu sais, les entreprises, ce sont des entreprises domiciliées aux États-Unis, mais souvent qui ont des affaires partout à travers le monde. S'ils veulent vendre leurs produits en Europe, ils n'ont pas le choix d'avoir des pratiques ESG, d'essayer de démontrer des pratiques ESG adéquates pour avoir le droit de continuer de vendre. Les jeunes employés veulent travailler pour des entreprises qui se comportent de façon ESG.
Dans le fond, il peut y avoir un mouvement politique, mais les consommateurs et les désirs des consommateurs...
En bout de ligne, c'est ça qui va prévaloir. Puis il y a aussi, on a lu là, durant nos vacances, un livre de Anna Ritchie, le livre qui se nomme « Not the end of the world ». Donc, on l'a lu en anglais, là, il doit exister en français
c'est
aussi.
C'est ça, pas la fin du monde.
Pas la fin du monde. Ouais. Anna Ritchie, c'est une environnementaliste, une scientifique, donc qui a un petit peu étudié qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, il y a ce que les médias nous rapportent, il y a ce que les scientifiques nous rapportent. Mais en réalité, la réalité est peut-être pas aussi noire qu'on pourrait penser. Puis on a l'impression que les scientifiques, pour nous inciter à améliorer nos pratiques en tant que citoyens, ben c'est comme s'ils nous mettaient l'urgence d'agir à tel point qu'on sent qu'il y a des gens qui ont perdu espoir. Puis si le combat est déjà fini, d'un certain point de vue... Ben, ça donne quoi d'avoir des pratiques ESG?
Puis moi, je le ressens beaucoup chez nos jeunes. Hein? Nous, on parle avec les amis de nos enfants, puis je leur dis tout le temps, continuez à avoir d'espoir, parce que eux ils ont perdu l'espoir. Puis ça, c'est quand même grave. Puis Anna Ritchie, qui a écrit le livre, elle-même avait perdu espoir. Et c'est pour ça qu'elle a écrit le livre, parce qu'elle allait abandonner ses études dans ce domaine-là. Et a décidé, elle a vu un autre...
Anne Rosling.
Puis elle a dit, OK, non, il y a de l'espoir, puis il faut absolument continuer à avoir de l'espoir.
C'est pas vrai que le combat est terminé. Il y a de l'espoir, il faut lire, il faut s'informer, puis il faut continuer individuellement à adopter des pratiques.
Puis il y a des compagnies, puis dans ce livre-là, elle en parle, il y a des compagnies qui font toutes sortes de choses intéressantes, innovantes, qui vont faire progresser le sujet. Il y a plusieurs investisseurs qui sont intéressés quand même à aligner leurs valeurs avec leur investissement. Donc, quand on pousse la discussion, on voit « non, je ne veux pas investir dans telle ou telle compagnie ». Mais souvent, la perception est que ça entraîne des rendements moindres. Est-ce que tu peux nous décortiquer la perception versus la réalité?
Ouais, c'est sûr qu'à court terme, ça peut avoir un impact. Puis ça a un impact. Là, si on prend des rendements sur un an, deux ans, trois ans, ben, force est d'admettre que oui, ceux qui ont mis beaucoup d'emphase sur le ESG ont été un petit peu pénalisés parce qu'entre autres, le secteur de l'énergie renouvelable n'a pas très bien fait. Mais à plus long terme, historiquement, les statistiques démontrent que non. Là, puis au contraire, il y a une certaine gestion du risque à travers ça. Puis je pense que les déboires là, de la compagnie minière canadienne, First Quantum, là, l'illustre un peu. Tu sais, si on ne fait pas attention aux facteurs ESG, à un moment donné, on peut se faire frapper assez durement sur le prix de l'action. Donc, il faut accepter des fois d'avoir l'air fou à court terme pour avoir gagné à long terme. On prend l'investissement à long terme, donc il ne faut pas avoir une vision sur 6 mois ou sur 1 an. Il faut avoir une vision sur 10 ans ou sur 20 ans. Ça peut paraître long quand on a 60, 70 ans, mais c'est ça quand même, là, l'espérance de vie demeure longue. Il faut garder une vision sur 10 ou 20 ans pour faire nos choix d'investissement.
Puis les investissements, comme on a dit, ils ont leur lot de défis à court terme. On le sait qu'on doit continuer à considérer notre vision sur le long terme.
Ouais.
Et puis même si nous, on ne le considère pas ou on choisit des investissements qui nous paraissent bien, les compagnies sont en train de considérer pour nous de toute façon. Exact. C'est une réalité qui ne s'en va pas. Et les grands gestionnaires, même s'ils ne s'annoncent pas ESG dans leur marketing, ils y pensent. Leur équipe d'analystes y pense aussi quand ils approchent les compagnies. Peux-tu nous parler un peu de ça?
Oui, bien, il y a comme deux courants en même temps. À la fois, tu as le greenwashing, là, donc l'éco-blanchiment où on fait du marketing ESG, mais en réalité, on ne se comporte pas très ESG. Donc ça, il y en a, c'est la réalité. Beaucoup plus en Amérique qu'en Europe. En Europe, c'est très, très réglementé. Puis inversement, il y a des gestionnaires là, qui ne s'affichent pas du tout ESG puis qui ont tous les attributs. Ils pourraient faire du marketing à tonnes parce qu'ils ont toutes les qualités de le faire, puis ils ne le font pas. Fait que c'est notre rôle de lever un peu le capot, d'aller fouiller dans le moteur puis de comprendre comment fonctionne la machine et de détecter l'éco-blanchiment quand c'est le cas. Ou au contraire, même si ce n'est pas un fonds ESG, ben, de favoriser ce genre de fonds-là. Parce que les défis sont là, tu sais, la gestion de l'eau, bon, la population mondiale augmente, il y aura des défis, entre autres liés à l'environnement, au changement climatique. Donc, la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie ou l'eau, les besoins d'énergie sont là, la gestion des déchets, la santé de la population, les changements climatiques, ça s'en va pas nulle part, là. Les politiciens peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent, là, entre autres aux États-Unis, mais c'est ça la réalité, là. On peut pas, je pense, nier la science. Les défis sont là. Donc, est-ce qu'on peut investir en disant, ben, s'il se passe ça, ben, il y a certainement des entreprises qui vont peut-être en profiter.
Puis, il y a vraiment l'exemple des compagnies d'assurance, exemple, aux États-Unis, qui ne veulent pas assurer des propriétés en Californie à cause des problèmes climatiques. Donc, ça existe et je parle beaucoup avec des clients qui sont en campagne, qui ont des propriétés peut-être plus dans le sud, puis qui réalisent les défis climatiques de toute façon.
Ouais.
Donc, il y a des impacts des changements climatiques. Ça engendre des coûts, ça engendre des risques. Et puis, on prend nos décisions, on fonctionne de ça, malgré tout ce qui se
passe. Malgré le politique, des fois, qui essaie d'influencer.
C'est ça. Quelles sont les opportunités malgré les défis?
Bien, c'est ça l'opportunité, en fait. C'est que les défis qu'on a mentionnés, c'est une opportunité. Donc, on va, nous, comme population, devoir résoudre ces défis-là, les affronter. On n'a pas le choix de trouver des solutions, entre autres, à la gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets, des changements climatiques. Les entreprises, même si le gouvernement américain s'est retiré de l'accord de Paris, les entreprises elles-mêmes continuent d'adhérer à l'accord de Paris en grande majorité. Donc, tant qu'on voit des défis, c'est une opportunité et il faut profiter de ces opportunités-là avec une vision à long terme. Donc, ce n'est pas sur 3, 6 mois, 12 mois qu'on doit évaluer la performance, mais c'est sur 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et ces défis-là feront des gagnants parmi les entreprises et feront des perdants. On pense que les entreprises qui vont ignorer ces défis-là seront perdantes à long terme.
Et je vais laisser avec un message final. Je suis fille de scientifique. Mon père, c'est un scientifique. Et il parlait des défis climatiques quand j'étais jeune. C'était un sujet de discussion. Les choses qu'on a discutées sont arrivées. Et puis, je pense que la différence, c'est qu'aujourd'hui, on a des solutions.
Ouais.
Et c'est ça l'espoir, c'est que l'innovation humaine est là et ça vaut la peine. Je pense que les grands gestionnaires regardent les compagnies qui sont innovantes. Donc, on va laisser un message d'espoir.
Puis mais... Anna Ritchie, Not the End of the World, si vous voulez le lien, ça va nous faire plaisir de le partager. Puis je pense que ça va vous aider à regagner un peu d'espoir dans l'humanité.
Exactement. Puis je ne sais pas si c'est traduit encore, fait que si vous êtes confortable en anglais, laissez-nous savoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin. Pour nos clients et partenaires, si vous avez des questions concernant ce balado, communiquez avec nous. Martin et moi sommes toujours disponibles pour discuter de vos besoins, vos questions ou vos objectifs financiers personnels. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.